Le lycanthrope, Champavert ou les contes immoraux, Petrus Borel. Partie 2 sur 2. 2. Edura. Ce factum achevé, Champavert l'enveloppa, mit l'adresse à Jean-Louis, laboureur à la chapelle en Vaudragon, et le cacheta. Puis, il se releva, calme et comme soulagé, but un pot de thé, alluma une cigarette, s'assit sur la croisée, fumant et regardant vaguement dans l'air. Sa cigarette achevée, il rentra dans la chambre et, longeant le pourtour des murailles, il baisait les portraits de ses compagnons, tour à tour, et tour à tour, les brisait sur le plancher. Ensuite, avec un rire goguenard et haussant les épaules de dédain, il lacéra et jeta au feu tous ses livres, et s'armant d'une hache à pendu en trophée, il mit en pièces, l'un après l'autre, les meubles qui garnissaient son logis. Le carreau était couvert de débris, et le cœur de la cheminée s'étendait dans la chambre. Son mauvais cœur palpitait de joie. Il ne voulait rien laisser après lui qui pût être utile, rien. Il ne voulait pas qu'après sa mort, on se partageât, le rire sur la lèvre, ce qu'il avait possédé, qu'un autre après lui vint aimer un objet qu'il avait aimé, qu'un autre promenât ses dépouilles au soleil. S'il avait eu de l'or, il aurait été le jeter à l'eau ou l'enfouir, tant son aversion pour les hommes était profonde, tant il abhorrait l'héritage. Ce n'est pas lui qui aurait fait planter des arbres sur sa tombe pour abriter le voyageur lassé pendant le midi. Il aurait plutôt fait creuser une chausse-trappe sur sa fosse pour y engloutir le voiturier égaré ou le piéton perdu dans l'herbe haute. Satisfait de sa dévastation, il s'assit sur ses ruines, comme l'architecte Fontaine s'assoirait sur les décombres de Saint-Germain-l'Auxerrois. Et, ouvrant une cassette à demi brûlée, il en tira une petite boîte d'écailles, la porta à ses lèvres avec ivresse et la couvrit de baisers. Edura, mon premier amour et mon plus terrible, Edura, ma Varinse, répétait-il, le front rouge et les mains crispées, broyant et faisant craquer la boîte sous ses doigts baignés des gros pleurs qui tombaient de ses yeux. « Oh, Edura, ma belle Edura, femme, femme, que tu m'as été fatale! Si tu l'avais voulu, tu aurais fait de moi quelque chose de grand. Je sens trop là que j'étais prédestinée, rien qu'avec un mot, un seul mot. Tu ne l'as pas dit, ce mot. « Vilaine femme, que tu m'as fait de mal. Tu m'as perdue, tu pouvais faire de moi un lion. Le bon de mon cœur pouvait grandir sous tes caresses. Ta voix, ta douce parole, tes baisers pouvaient exorciser le venin qui maintenant me déborde. La souffrance a fait de moi un loup féroce. Tiens, que je brise ce bijou qui me vient de toi. » Et jetant à terre cette boîte d'écailles, il frappa dessus du talon et la pulvérisa. Meurs, meurs tout souvenir d'elle, d'elle qui a fait entrer la haine en mon cœur, d'elle qui a trempé ma jeunesse dans le fiel quand elle pouvait la faire si belle, si sublime. C'est toi, Edura, c'est toi qui m'as aigri, qui m'as chassé la bonté de ma tête, la sensibilité de ma poitrine, qui m'as usé et blasé par la torture et l'envie. C'est toi qui es cause que j'ai tout haï. Tu m'as perdu quand ma vie s'ouvrait, si riche d'avenir. C'est toi qui l'as empoisonné. Et si je me tue, c'est encore par toi. C'est toi qui as mis dans mon sein le germe de la mort. La misère l'a fécondé. Oh, inconcevable passion, amour, amour qui t'expliquera. Edura, oh mon Edura, ne va pas croire après cela que je te hais. Je t'aime toujours aussi follement, je frissonne encore à ton nom comme autrefois. Je t'aime, et c'est toi qui m'as tué, c'est toi qui m'as tourné vers le néant, tu m'as fait tant de mal, Je t'aime tant. Et cependant, tu n'es plus pour moi qu'une souvenance confuse. Les ans ont passé vite et m'ont fait jeune homme. Mais toi, ils t'ont vieilli, terni, fané. Tu n'es plus un bouton d'or, tu es un saule creux qui penche. Les cavaliers ne te regardent plus, tu n'as plus de cour, tu n'es plus reine. Si alors tu avais voulu cueillir mon amour, amarante, immortelle, qui ne se flétrit point, elle tornerait encore. Mère, tu aurais un enfant passionné dans tes bras. Mon sang, mes baisers chaleureux rappelleraient ta vie qui s'en va. Tu aurais eu jusqu'au bout un compatissant appui. Ma jeunesse aurait obombré ton âge et mon bras puni le rieur qui aurait levé ton voile. Que sont-ils devenus, tous ces beaux muguets, amants charnels, que sont-ils devenus? À peine se rappellerait-il ton nom, vrai cosaque à cheval. Ces hommes auxquels tu t'es livré t'ont jeté leur passion nomade. Ils t'ont butiné sur leur chemin. Pauvre femme, insensée. Voilà donc les amis que tu te préparais pour le retour. Souffre, souffre maintenant. Il est bien juste que je sois vengée. J'ai tant souffert. Maintenant peut-être, tes joues, que nul baiser ne ravive, sont mouillés de pleurs. Tu languis solitaire, et cette solitude inaccoutumée te mine. Peut-être en es-tu réduite, quel abaissement ! À faire des minauderies à de jeunes hommes qui te repoussent et te tournent le dos. Quand tu veux parler d'amour, on ricane. Souffre, souffre longtemps, que je sois bien vengée. Inconcevable passion, je t'aime encore, je le sens là, je ne puis me le cacher, je t'aime. Et je te hais profondément. Et cependant, si tu venais me prendre la main, si tu venais me dire tout bas ce mot que tu m'as toujours su, si tu venais me dire « je t'aime » comme autrefois, car tu m'as aimé, j'en suis sûre, je suis sûre que tu as étouffé ton amour pour moi, que tu as repoussé le mien. Parce que aimer, être aimé d'un enfant obscur, n'était pas ce que voulait ton esprit orgueilleux. Et je t'aime encore aussi violemment. Et pourtant, te dis-je, si tu venais à moi, je te repousserais. Car je t'aime aujourd'hui pour ce que tu as été, et non pour ce que tu es. Si tu te jetais à mes genoux, je serais sans pitié, je te frapperais. Si tu t'attachais à mes pas, froid, je te traînerais, je serais vengé. Puis, accoudé, silencieux, ce pauvre Champavert pleurait amèrement. C'est le premier pas dans la vie qui décide de la vie. Verser du vinaigre dans le vin le plus doux, il deviendra vinaigre, murmura-t-il, en ramassant les débris de la boîte d'écaille qu'il baisait et mettait dans sa bourse. Tout à coup, il se lève, enfonce son chapeau sur son front, sort et clôt sa porte. « Voici ma clé, » dit-il en descendant au concierge. Je pars pour un voyage lointain. Si quelqu'un venait me demander, vous voudrez bien lui dire que j'ai quitté pour longtemps cette ville. Iriez-vous en Espagne, que vous aimez tant ? Plus loin. En Alger ? Plus loin. Il sortit. Flava. Vers le soir, un camarade le rencontra rue Jean-Jacques Rousseau au moment où il sortait de la poste. À 8 heures environ, sur la hauteur de Montmartre, dans le chemin des Rosiers, il sonnait à un guichet rouge. Une jeune fille ouvrit. Ses cheveux blonds flottaient sur sa robe blanche, son teint pâle et son regard soucieux, son allure langoureuse, quoique dégagée, sa poitrine rentrée et sa tête inclinée, disaient tristement que la souffrance, comme une foudre, avait ravagé et ravageait cette belle créature, cassée, défleurie. En aperçant Champavert, elle jeta un cri de surprise. « Vous, mon sauvage, à cette heure, quelle aventure ?»« Ami, si je ne suis venu, ce n'est point par aventure. C'est tout à votre intention. »« Champavert, vous me permettrez au moins le doute. »« Mauvaise, vous voulez me blesser ? Es-tu seul ?»«
Oui. »«
Tout à fait seul ?»«
Oui. »«
Ton père ?»«
Il est descendu à la ville. »«
Enfin, c'est bien heureux. » Je puis te voir et te parler à loisir sans gros yeux qui épient et sans grandes oreilles qui espionnent.
Qui vous change donc ainsi, mon Champavert? Quel soleil a donc fondu la glace de votre cœur? Ah vraiment, il vous sied bien, après 2 mois d'absence, de venir jouer à l'amoureux?
Flava, je ne joue rien. Je suis pour toi ce que j'ai toujours été. J'accepte tes reproches. Je sais qu'en apparence, je puis en mériter. Je suis peu assidu, il est vrai. Mais tu règnes en mon cœur toujours. Tu règnes comme la patrie dans le cœur d'un proscrit. Tu règnes comme la vie dans le cœur d'un condamné. L'absence ne détruit pas l'amour, tu le sais. Je suis peu assidu, c'est vrai. Que veux-tu que je vienne faire ici plus souvent? Souffrir? Toujours gardée à vue, comme une criminelle d'État. Je ne puis seulement te presser la main, te dire un mot bas à l'oreille, à peine si nos regards peuvent s'entendre. Cela me fait trop de mal, je ne puis le supporter. Que de fois j'ai été tentée de frapper ton père, tes geôliers, de te prendre le bras et te dire « Fuyons !» Ah, si tu étais libre, ou si du moins nous pouvions nous livrer à de douces causeries, tu ne te plaindrais pas de l'infréquence de mes visites. Mais qu'importe, puisque ta vue seule me remet tant de courage au cœur. Ah, c'est cruel, Champavert, de haïr ainsi une femme, et puis de sortir de terre comme un démon 2 ou 3 fois l'année pour venir lui mentir, lui dire qu'on l'aime. Ah, c'est cruel, Champavert. Flava, tu me traites durement, tu me tortures à plaisir. Faudra-t-il donc toujours, comme un débutant, renouveler mes aveux d'amour, toujours faire de nouvelles protestations? Tu devrais au moins me connaître depuis 6 ans que nous sommes liés. Si je ne suis pas assidu, suis-je pas fidèle amant? Je sais que tu as le droit de douter de moi, qu'autrefois, tout enfant, j'ai été mauvais. Mais ma constance n'a-t-elle pas racheté tout cela? Je t'aime, Flava. Je t'aime profondément, à tout jamais. Veux-tu encore un serment? Je t'aime, Flava. Et te le jure sur le corde. Silence. Champavert, silence. N'invoquez pas son ombre. Ne pleure pas, Flava. Ne pleure pas. Bonne mère, tes larmes ont assez creusé tes joues. Tes larmes sont amères à mes lèvres. Ne pleure pas. Bonne mère, il est plus heureux que nous. Il n'est pas... Plus heureux que nous. Il n'est pas... Champavert, tu dis vrai que j'aime cette pensée. Oh, dis-moi, serais-tu prêt?
Non, ma toute belle. Attendons encore, peut-être des jours meilleurs vont se lever pour nous.
Si jeunes encore, nous avons un long avenir. Attendons encore, nous avons bu l'absinthe avant le festin. Attendons après le deuil de la nuit, le jour et la rosée.
Champavert, quand un arbre a été atteint de la foudre, nul printemps ne saurait le reverdir. Il dessèche sur pied, jusqu'à ce qu'un bûcheron le renverse de sa hache.
Champavert, attendrons-nous le coup de hache de la mort, tardif bûcheron? Ce serait une lâcheté.
Il est téméraire de préjuger l'avenir. Ma belle, dépouillons-nous de cette sombreur. Soyons moins élégiaques, s'il vous plaît.
C'est cela, à loisir, plaisantez. Vous grimacez, Champavert. Votre rire n'est pas un rire qui part du cœur. C'est un rire de supplicié. Tout à l'heure, vous vous êtes trahi.
Pendant ces causeries, sous la salle d'ombrage, la lune était montée à l'horizon. et ses rayons, perçant au travers le feuillage vacillant des marronniers, semait le sable de nacre et l'obscurité de phalènes d'argent. Le rossignol ne chantait pas encore son nocturne, et l'on n'entendait rien dans l'immensité, sinon le son amoureux de leur voix qui s'élevait comme le soupir d'une nyomide. Damnation. La plaine est obscure et solitaire. Lève-toi, ma grande amie, et descendons le clos. Viens errer là-bas, près de la citerne. Il y a bien longtemps que je ne me suis agenouillée sur cette terre. Le houx ombrageant son berceau mortuaire a peut-être été brouté. Allons voir. Oh non. Oh, non pas. Ce houx est vert et touffu, et l'herbe haute et belle. Mes pleurs sont une pluie féconde. Et je les en arrose chaque nuit. Chaque nuit, tu descends à la source ? Oui, chaque nuit, quand tout dort en la maison, je me lève et descends faire ma prière sur sa tombe. Quand j'ai bien prié, bien pleuré sous le ciel, je me sens plus calme. La nature semble me pardonner mon crime. Il me semble entendre dans le silence universel une voix partant des étoiles qui me crie « Ton crime n'est pas le tien, faible enfant de la terre. Il est aux hommes, à la société, que son sang retombe sur eux et sur elle. » Je rentre avant l'aurore et je goûte alors un sommeil plus paisible et sans rêve affreux. Mystérieuse, pourquoi ne me parlas-tu jamais de tes visites nocturnes ? Je m'y serais trouvée aussi, moi. Je serais venue prier et pleurer avec toi. Garde-t'en, Champavert, garde-t'en bien, tu me perdrais. Plusieurs fois, mon père soupçonneux m'a suivi. J'en suis sûre, je l'ai vu là, caché derrière le mur de la citerne. Il m'écoutait. Nous serions trahis. Aussi ai-je bien soin de prier bas, de peur qu'il n'entende pourquoi je prie. Il m'a demandé plusieurs fois, avec un sourire d'intelligence, si je n'étais pas somnambule. J'ai faim de ne pas comprendre et sans me déconcerter, j'ai répondu que cela pouvait bien être. Ils étaient presque au bas du sentier rapide qui conduit à la source. La lune avait disparu, le ciel était noir. Quelques éclairs passaient comme des phosphores à l'horizon. Flava était appuyée sur le bras de Champavert qui froissait dans sa main une branche de verveine. Quelle odeur plus suave que cette verveine des Indes. Aimes-tu les fleurs, Flava ?
Beaucoup.
Toi ? Aimer les fleurs, Flava, c'est de l'amour propre. Aimes-tu les parfums ?
Beaucoup.
Pour moi, je les aime follement. On dit que cela sied mal à un homme, que m'importe. Je ne suis pas plus efféminée pour cela. Si je me laissais aller, je remplirais mon logis de plantes balsamiques. Je me chargerais de senteurs comme une petite maîtresse. Quand je suis accablée, une branche de chèvrefeuille odorant est pour moi toute une consolation. Bien des cavaliers montent la garde pour une belle à son balcon. Moi, je la monterais pour une fleur. Bien des cavaliers font de longs chemins pour causer d'amour. J'irai en Espagne pour une bergamote, en Orient pour du benjoin. Bien des cavaliers vendent leur manteau pour en jouer le prix. Moi, je troquerais le mien contre un flacon d'essence de rose. Mais pour moi, par-dessus tout, Flava, tu es le flacon le plus odorant. Le réséda le plus suave, le baume arabique le plus précieux. Aussi pour toi je ferai plus que de guetter sous un balcon, je ferai plus qu'un pèlerinage, je ferai plus que de me dépouiller de mon manteau, je vivrai si tu l'exigeais.
Tu te trahis encore, Champavert.
Serais-tu prêt? Dis-le-moi, je t'en prie, souviens-toi de ta promesse.
Oh, non, pas cela. Je veux dire que si j'étais décidée au néant et que tu voulus ce que je vécus, je vivrais.
Champavert, tu blasphèmes en parlant ainsi de néant. Tu me fais mal infernalement. Regarde donc ce ciel sillonné, cette plaine, ces monts, cette majestueuse nature. Regarde-moi. Et après cela, crois au néant, si tu peux.
Comme toi, Flava, j'aimais jadis les poèmes et les phrases.
Hélas, si nous ne devions pas renaître heureux pour l'éternité, ce serait bien atroce, une vie de souffrance et de misère et plus rien après.
Le néant.
Oh, tu ne le crois pas.
Si, je le crois.
C'est par lâcheté que les hommes reculent devant l'anéantissement. Ils se façonnent à leur guise une vie future, se bercent et s'enivrent de ce mensonge qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Et tout contents de cette trouvaille, quand ils agonisent comme des fous sur le lit de fer, avec un rire niais sur les lèvres, ils vous disent « Adieu, au revoir, je pars pour un monde meilleur, nous nous retrouverons là-haut. » Et puis avec un rire encore plus niais, les héritiers, joyeux dans le cœur, répondent « Adieu, bon voyage !» Nous nous rejoindrons avant peu, préparer nos places dans l'hôtellerie du paradis. Eh bien non, idiots que vous êtes, vous allez où vont toutes les choses, au néant. Et c'est face à face avec la mort et le pied dans la fosse, lâche, que je vous dis cela. Je ne veux pas d'une autre vie, j'en ai assez de vivre, c'est le néant que j'appelle.
Taisez-vous,
Champavert. Ne blasphémez pas ainsi. Si vous saviez, votre regard est affreux. Mais quelle serait donc, mon ami, la récompense des malheureux torturés ici-bas?
Qui dédommagera le cheval de ses sueurs, la forêt de la hache, de la scie et du feu?
Sans doute, il y a une autre vie aussi pour les chevaux et les chênes, un paradis.
Vous êtes égaré. Taisez-vous, Champavert. Dieu vous entend. Ne craignez-vous pas son tonnerre?
S'il était un dieu qui lança la foudre, je le défierais. Qu'il me lance donc sa foudre, ce dieu puissant qui entend tout. Je le défie. Tiens, je crache contre le ciel.
Tiens, regarde là-bas. Vois-tu ce pauvre tonnerre qui se perd à l'horizon? On dirait qu'il a peur de moi.
Franchement, ton dieu n'est pas susceptible sur le point d'honneur. Si j'étais dieu, si j'avais des tonnerres à la main, oh, je ne me laisserais pas insulter, défier par un insecte, un ver de terre.
Du reste, vous autres chrétiens, vous avez pendu votre dieu. Vous avez bien fait, car s'il était un dieu, il serait pendable.
Oh, laissez-moi fuir, la terre s'entr'ouvre sous vos pas. Satan, tu me fais horreur, laissez-moi, Champavert. Moi, je n'ai pas fait de pacte. Je vous en prie, taisez-vous, je suis morte si vous blasphémez plus. Faut-il donc que je baise vos pieds?
Jusqu'à cette heure, j'avais gardé mon sang-froid, mais tant de misère m'enrage.
Oh, si je tenais l'humanité. Comme je te tiens là, je l'étranglerais. Si elle n'avait qu'une vie, je la frapperais de ce couteau. Je l'anéantirais. Si je tenais ton Dieu, je le frapperais comme je frappe cet arbre. Si je tenais ma mère qui m'a donné la vie, je l'éventrerais. C'est une chose infâme qu'une mère. Ah, si du moins elle m'avait étouffé dans ses entrailles, comme nous avons fait de notre fils. Horreur!
Je m'égare. Monde atroce. Il faut donc qu'une fille tue son fils, sinon elle perd son honneur.
Flava, tu es une fille d'honneur. Tu as massacré le tien. Tu es une vierge, Flava. Horreur! Ôte-toi de dessus de cette fosse, que je creuse la terre de mes ongles. Je veux revoir mon fils. Je veux le revoir à mon heure dernière.
Ne troublez pas sa tombe sacrée.
Sacrée! Je te dis que je veux revoir mon fils à mon heure dernière. Laisse-moi fouiller cette fosse.
La pluie tombait à flots. Le tonnerre mugissait. Et quand les éclairs jetaient leurs nappes de flammes sur la plaine, on distinguait Flava, échevelée, sa robe blanche semblait un linceul. Elle était couchée sous les touffes du houx, Champavert, à deux genoux sur terre, de ses ongles et de son poignard, fouillait le sable. Tout à coup, il se redressa, tenant au poing un squelette chargé de lambeaux.
Flava, Flava !»
criait-il.
« Tiens, tiens, regarde donc ton fils. Tiens, voilà ce qu'est l'éternité. Regarde !»« Vous me faites bien souffrir, Champavert. Tuez-moi. Tout cela pour un crime. Un seul. Ah, c'en est trop !»«
Joie, vertu, honneur, vous êtes satisfait ? Tenez, reprenez votre proie. » Monde barbare, tu l'as voulu. Tiens, regarde, c'est ton œuvre à toi. Es-tu content de ta victime ? Es-tu content de tes victimes ? Bâtard, c'est bien effronté à vous d'avoir voulu naître sans autorisation royale, sans bon. Eh, la loi ? Eh, l'honneur ? Ne pleure pas, Flava. Qu'est-ce donc ? Rien ? Un infanticide ? Tant de vierges timides en sont à leur troisième, tant de filles vertueuses comptent leur printemps par des meurtres. Loi barbare, préjugés féroces, honneur infâme, homme, société, tenez,
tenez votre proie, je vous la rends !»
En hurlant ces derniers mots, Champavert lança au loin le cadavre qui, roulant par la pente escarpée, vint tomber et se briser sur les pierres du chemin.
« Champavert, Champavert, achève-moi !»
râlait Flava, froide et mourante.
« Es-tu prêt maintenant ?»« Oui !»« Frappe-moi que je meure la première. Tiens, frappe-la, c'est mon cœur. Adieu !»« Au néant !»
À ces derniers mots, Champavert s'agenouilla, mit la pointe du poignard sur le sein de Flava et appuyant la garde contre sa poitrine, il se laissa tomber lourdement sur elle. L'étreignit dans ses bras, le fer entra froidement et Flava jeta un cri de mort qui fit mugir les carrières. Champavert retira le fer de la plaie, se releva et tête baissée descendit la colline et disparut dans la brume et la pluie. Des Profundis. Le lendemain, à l'aube, un roulier entendit un craquement sous la roue de son chariot. C'était le squelette charnu d'un enfant. Une paysanne trouva près de la source un cadavre de femme avec un trou au cœur. Et au but de Montfaucon, un équarisseur, en sifflant sa chanson et retroussant ses manches, aperçut, parmi un monceau de chevaux, un homme couvert de sang. Sa tête, renversée et noyée dans la bourbe, laissait voir seulement une longue barbe noire et, dans sa poitrine, un gros couteau était enfoncé comme un pieu.
Nous.